Si vous voulez pas, ben vous écouterez. 2 Pierre chapitre 1er. Je me mis à cœur de partager quelque chose pendant les trois prochaines semaines, vu que le pasteur Dolder ne sera pas là. Et c'est l'occasion de faire une suite, une série, si Dieu permettait. J'avais commencé sur une autre série, mais il m'a dirigé vers celui-ci. Et donc, ce sera plus des prédications en forme d'études que de prédications proprement parlées. C'est quand on enseigne le cours de prédication à l'Institut biblique, on leur dit le message type ou typique, c'est point. Tu as une proposition, tu as une phrase de transition, tu as une question auquel on répond à la proposition, et ensuite tu as le point 1, point 2, point 3, et puis en dessous du point 1, tu as ABC, et puis en dessous du point 2, ABC. Bon, ça ne sera pas comme ça. Et c'est généralement, ce n'est pas souvent comme ça. On va réfléchir à cette question de ce qu'il en est de notre croissance en maturité, de grandir en maturité spirituelle. Et on va prendre le temps de lire ce chapitre, 2 Pierre chapitre 1er, même si on ne va pas voir tous les versets, ce n'est pas du verset par verset qu'on va étudier, mais pour voir au moins le contexte. Il dit « Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que le Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, il parle de la transfiguration. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. On l'a chanté ce matin, ce terme utilisé pour parler de Christ, l'étoile du matin, n'est-ce pas? Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc nous voyons dans ce chapitre, hein, dans sa totalité, Dieu donnait ce chapitre pour parler en profondeur, entre autres, il y a beaucoup de choses comme toujours dans un chapitre entier, mais également celui de la maturité chrétienne. Parce que ce chapitre nous enseigne que ce que cela implique d'avoir une vraie maturité chrétienne, de connaître Christ. Il utilise ce mot « connaissance » par rapport à la personne de Dieu, surtout par rapport à la à la personne de Christ plusieurs fois dans ce passage, et donc de vouloir lui ressembler au milieu même de ce monde pécheur qui veut le rejeter. Les personnes à qui l'apôtre Pierre s'adressait étaient des personnes très similaires des personnes que nous avons à notre époque. Nous avons aujourd'hui, comme à l'époque de Pierre, diverses religions qui se propagent, ainsi qu'une culture qui ne cesse d'abonder dans la corruption, qui va toujours vers, en s'éloignant des principes bibliques que de s'en rapprocher, et une volonté donc de vouloir s'éloigner de Dieu lui-même et de tout ce que Dieu représente et de sa parole. Et Pierre comprenait bien le besoin et la nécessité de former des chrétiens qui soient des chrétiens solides, matures, qui même longtemps après sa mort, allaient pouvoir continuer à vivre une vie chrétienne victorieuse, et cela malgré l'influence du monde et de la chair. C'est ce qu'il nous dit dans le verset 12 et suivant. Il dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez. » Il dit « Je comprends que vous comprenez déjà ces choses. » Mais je dois de vous les rappeler pour que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, il dit, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Je sais que je vais mourir, le Seigneur me l'a dit. Mais je veux qu'une fois que je meure, une fois que je sois parti, que vous, vous puissiez continuer dans les choses que vous savez déjà aujourd'hui, que vous ne les perdiez pas avec le temps, avec les expériences que vous allez connaître, etc., mais que votre maturité s'affermisse et non diminue. Donc Pierre ensuite utilise les versets qui suivent pour leur rappeler que les enseignements qu'il donne ne viennent pas de lui, mais viennent de Dieu. Je crois qu'il serait bon pour nous aussi de nous rappeler et de nous rappeler les uns les autres l'importance de nous soumettre à l'enseignement de la parole de Dieu, ainsi que de développer cette volonté d'avoir une maturité chrétienne qui dépasse juste une connaissance des versets bibliques, mais une maturité chrétienne où ces vérités puissent faire les transformations et les changements que Dieu désire qu'elles fassent dans notre vie. Nous aussi, on doit se rendre compte qu'on ne peut pas espérer grandir en maturité tout en refusant de nous soumettre aux enseignements de Dieu, ou tout en choisissant de choisir quelle vérité je veux me soumettre et quelle vérité je peux ne pas me soumettre. Le pasteur Dollaire et moi-même sommes très loin d'être parfaits. Je crois qu'on n'a jamais prétendu l'être. Ce serait illogique et ridicule de prétendre une telle chose. Mais une chose que nous faisons, c'est de nous assurer que les enseignements que nous apportons ici soient également tirés de vérité de la parole de Dieu et non des idées personnelles. L'une des façons que nous faisons cela, à part notre marche personnelle avec le Seigneur et notre temps de prière avant, pendant la préparation et de chaque prédication, chaque étude, c'est celui de nous assurer de ne jamais prendre un passage ou une vérité hors contexte. C'est l'une des premières choses que nous enseignons à l'Institut dans le cours d'homilétique ou de prédication. On a cette phrase, on dit « un passage qui pris hors contexte devient automatiquement une prétexte ». Et si vous ne serez pas d'accord avec un enseignement que nous apportons ici, c'est tout à fait dans votre droit. Et on espère que, comme je l'ai dit, on n'est pas parfait, mais on espère que vous feriez donc ce même travail d'étude du contexte pour être sûr que vous êtes vous au moins dans cette vérité et ne pas vous satisfaire avec ben, moi je pense que et que ça soit suffisant pour contredire les études que nous avons faites en travaillant le contexte pour dire voici ce que Dieu dit dans sa parole. Quand nous parlons de contexte, pour que ce soit plus clair, laissez-moi vous dire de quoi on parle. Quand on parle de contexte, d'être fidèle avec le contexte de ce verset, de cette vérité, on parle du contexte immédiat déjà, les versets avant, les versets après. On parle du contexte du chapitre, le chapitre avant, le chapitre après, le contexte du livre en lui-même, quel livre, dans quelles conditions, etc. le fait d'être conforme avec l'enseignement de la parole de Dieu dans sa généralité, dans sa totalité. Si nous croyons réellement que ceci est la parole de Dieu et que Dieu est parfait, il ne peut y avoir la moindre contradiction entre elles. Par exemple, un passage qui parle de travailler pour notre salut ne peut pas parler de recevoir le salut par les œuvres, parce que nous savons que la totalité, la généralité des enseignements des Écritures nous enseigne que le salut, c'est par grâce, au moyen de la foi. Ça, c'est le contexte général de la Bible. Il y a aussi le contexte grammatical. Ce passage ici, les versets, comme vous l'entendez souvent dire, dans le grec, ce mot veut dire, etc. Ce terme, ce verbe, dans ce temps-là, ou bien entendu avec l'Ancien Testament, avec l'hébreu. Ça, c'est le contexte grammatical. Le contexte historique, il y a une grande différence entre l'alliance donnée au peuple juif et les païens du Nouveau Testament. Ou de comprendre pourquoi tel peuple était mal vu à cette époque-là, comme pour les Samaritains. Il y a le contexte historique également. Et le contexte culturel, qui est différent du contexte historique. Nous comprenons mieux l'enseignement, par exemple, qui nous est donné dans les évangiles par rapport de faire le second mille, quand on comprend que dans ce contexte culturel qu'ils avaient à l'époque, tout soldat romain avait l'autorité de dire à n'importe qui de porter sa charge sur un mille, et il devait le faire. Et Christ leur disait, fais-le volontairement, et bien plus, fais-en même un deuxième pour ce soldat. Tout ça, c'est des autres contextes culturels, l'habitude qu'ils avaient quand tu étais invité chez quelqu'un, que l'autre qui te reçoit te lave les pieds. Ça faisait partie du contexte culturel. Il y en a plein. Et toutes ces choses ensemble font partie de travailler le contexte pour nous assurer qu'il n'y a pas la moindre vérité, pas le moindre texte qui est pris hors contexte et qu'on puisse dire, voici ce que Dieu dit dans sa parole. Et si vous faites ce travail d'étudier la parole en prenant en compte donc, les contextes, alors il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut est d'avoir cette volonté d'être soumis, obéissant, non au pasteur, mais à la parole de Dieu. C'est ce que nous nous efforçons d'apporter pour chaque chrétien, parce que c'est la seule façon que ce chrétien va pouvoir grandir en maturité dans sa vie chrétienne. C'est ce que Pierre est en train d'enseigner à ces chrétiens-là. Il dit, vous le savez déjà, mais quand je suis parti, il faut que vous continuiez, parce que ce ne sont pas mes paroles, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. C'est ça qui importe, et vous continuez dans ce que Dieu vous enseigne, à vous y soumettre et à l'obéir. Comment puis-je espérer grandir en maturité si je remets constamment en doute ce que Dieu déclare dans sa parole comme étant une affirmation? On l'a dit ce matin, il partage avec un simple passage qui dit « Dieu est tout-puissant » ou « Rien n'est impossible à Dieu ». Pourquoi mettre en doute un tel passage? Oui, mais quoi, tu doutes? Oui, mais tu penses que Dieu a tort? Oui, mais tu penses que Dieu n'a pas pensé à toute chose, toute éventualité, toute condition avant de pouvoir donner une telle déclaration de lui-même? Comment puis-je grandir en maturité si je remets en doute ce que Dieu dit de lui et de sa parole? Je ne suis pas, ou si je dis, je crois que ceci est vrai, je crois que Dieu dit la vérité, mais est-ce que je suis vraiment, moi, obligé de le mettre en pratique dans ma vie? Ça, c'est bien que le pasteur le fasse, mais est-ce que moi, je suis obligé de le faire? De se rendre compte que d'avoir un caractère qui démontre les vertus d'une vie consacrée à Christ n'est pas quelque chose qui ne se fait tout seul ni par hasard. C'est un effort volontaire et consciencieux de notre part. C'est une volonté de ne pas seulement dire, mais de vivre la vérité. D'avoir Christ vivre à travers nous, si vous préférez. Nous avons dans ce chapitre de 2 Pierre, chapitre 1, toute l'aide nécessaire pour ne pas tomber dans les pièges de ce monde ou des faux enseignements. Ce chapitre nous donne, entre autres, la cible qu'il nous faut viser, également le moyen de l'atteindre, pour que nous puissions avoir une vie qui ressemble plus à celle de Christ et moins à celle de notre ancienne nature. Et quand on parle de ressembler à Christ, on parle surtout de ressembler à son obéissance, à son humilité, mais une humilité qui ne l'empêche pas d'être fort dans l'épreuve et à être convaincant. Et j'espère que c'est là votre volonté quand on parle d'être plus comme Christ, c'est d'être tout dans son caractère. Comme d'autres passages nous disent, ayez les sentiments de Christ. Personne, pas même Dieu lui-même, ne peut vous forcer à vouloir être comme Christ. Ce passage en 2 Pierre, versets 5 à 7, nous dit « À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. » Et on pourrait prendre chaque chose individuellement et voir chaque nom qui est donné ici. Mais déjà, il faut se poser la question, pourquoi cette liste ? Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous trouvons différentes listes de vertus et ne sont pas toutes identiques ? Même s'il y a certaines choses qui reviennent dans chacune d'entre elles, comme l'amour, comme la patience, comme la bonté, mais elles ne sont pas toutes identiques, exactement pareilles. Par exemple, on étudie les mardis soirs, celle qui se trouve dans Galates chapitre 5, celui qu'on intitule le fruit de l'esprit. Il y en a plusieurs qui reviennent ici dans cette liste aussi. Ou en 1 Corinthiens 13, nous avons toute une liste de son chapitre en entier de ce que Dieu décrit comme étant le vrai amour. Et encore Jacques chapitre 3, nous avons une liste qui nous montre comment contrôler notre langue. Ou également en Matthieu chapitre 5, nous avons une liste de ce que nous appelons les béatitudes. Et ces listes sont bien différentes, mais elles sont toutes des listes qui sont ciblés pour nous, pour nous aider à ressembler plus à Christ. Chaque liste est importante et chaque liste répond à un besoin spécifique. Et même si parfois nous avons des sujets similaires qui reviennent dans plusieurs listes, chaque liste a sa raison d'être. Et l'apôtre Pierre dit qu'il écrit ici pour aider les chrétiens à avoir spécifiquement une meilleure connaissance de Christ, pour que celle-ci puisse les transformer à devenir comme Christ. C'est ce qu'il dit au verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Et il ramène la chose au verset 8. Car si ces choses sont en vous, ça c'est après avoir donné cette liste que je viens de lire, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles. Pourquoi ? Pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette liste a pour but de nous aider à grandir en connaissance de la personne de Christ pour que nous puissions ressembler plus à Christ. Et cette liste, elle est parfaite. Elle est parfaite parce que c'est Dieu qui nous l'a donnée. Ce n'est pas Pierre qui a pensé à cette chose de par lui-même. Dieu n'a rien fait, n'a rien oublié, n'a rien ajouté qui soit inutile pour que nous puissions avoir une vie chrétienne victorieuse qui reflète la vie de Jésus-Christ. Même l'ordre dans laquelle est donnée la liste, est important. Il nous faut faire le premier pas, celui d'obéir et mettre en pratique la première chose de la liste avant de pouvoir faire le suivant. Nous ne pouvons pas grandir en maturité en sautant les étapes. Il nous faut avoir la foi avant d'y ajouter la vertu. Il dit « ajoutez à votre foi la vertu ». Ce n'est pas la peine d'essayer d'avoir la vertu sans la foi. Et on pourra continuer la chose. Il nous faut avoir maîtrisé cette vertu avant d'espérer de pouvoir avoir la science, etc., etc. Dieu ne fait jamais rien au hasard, ni sans raison. Non seulement est-ce que l'ordre dans lequel cette liste nous est donnée, qui est important, mais bien entendu les mots utilisés sont choisis par Dieu pour une raison bien précise. Même dans le fait d'utiliser à chaque fois cet article défini, le ou la, à son importance. Nous avons tous une certaine connaissance sur la foi, sur la science, sur la connaissance, etc. Mais Dieu met cet article défini en disant qu'il nous faut rajouter à notre foi pas une vertu, mais la vertu. Il part d'une vertu bien précise. Quand je disais à mes enfants que nous allons à l'église, ils savaient où nous allons. Ils savaient qu'on venait ici. Il y a plein d'autres églises sur Amiens, de toutes sortes. Et on a visité plein d'églises aux États-Unis, mais quand on leur disait « on va à l'église », on mettait l'article défini, ils savaient que ce n'était pas n'importe laquelle, c'était une église bien précise. Et c'est ce que Dieu fait ici avec cette liste. Même si nous avons tous une certaine connaissance de ces vertus, nous ne pouvons pas les mettre en pratique dans notre vie quotidiennement par la simple volonté personnelle. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit sur la base de notre foi et non seulement notre pouvoir de décision. Après que Pierre nous donne cette liste de vertus essentielles pour notre maturité chrétienne, il nous donne ensuite, dans les versets 8 à 11, les bénédictions que nous pouvons recevoir une fois que nous avons fait de ces vertus une partie intégrante de notre vie. Car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, donc il va donner la comparaison contraire. Si tu ne le fais pas, voici d'une manière négative ce qui arrivera. Il est aveugle, il ne voit pas de loin, il a mis en oubli la purification des anciens péchés. Et là, il rappelle, c'est pourquoi, voici la raison que je viens de dire tout cela, c'est pourquoi je vous encourage, appliquez-vous d'autant plus à affirmer votre vocation, votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée du royaume éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sera largement accordée. C'est comme les Legos. Ils se construisent les uns sur les autres pour faire un tout. Et cette liste, elle est pareille. On rajoute une chose, une vertu après l'autre, la vertu, la science, la connaissance, etc., pour former un tout. Si on saute une étape, quand on construit les Legos, il ne faut pas s'attendre à ce que le résultat soit celle qu'on voulait. J'ai sauté cette étape-là, c'est pas grave. Puis il y a un trou ici, il y a un trou là-bas, ou il y a une pièce qui ressort un peu trop d'un côté. C'est pas ce qu'on voulait. On ne peut pas sauter des étapes. Et le but est donc que ces vertus soient en nous. Et ce passage nous dit bien, et ils soient en abondance. C'est pas juste une question de connaissance, c'est une question de mise en pratique. Que ces vertus soient personnelles, ainsi que de constamment être en train de grandir et de mûrir en nous. On vient de lire les passages 8 à 11, donc les résultats que qu'on peut espérer voir dans notre vie quand cette liste est mise en pratique. Donc si on met réellement ces vérités en pratique, c'est-à-dire qu'on ne garde pas ceci juste au niveau de la connaissance, parce que je sais qu'en France, on a ce problème de confondre trop facilement connaissance pour sagesse. Il y a beaucoup de personnes qui ont une connaissance tellement plus grande que la mienne, mais que Dieu considère des insensés, parce qu'ils refusent de croire dans la réalité de l'existence de Dieu lui-même. Pourtant, leur connaissance, elle est au-dessus de la mienne. Ils pourraient me battre à plat de couture sur des sujets innombrables. Mais Dieu les appelle l'insensé, dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Peu importe ces autres connaissances du monde, c'est ce que nous faisons avec la connaissance de l'existence même de Dieu qui importe. D'ailleurs, combien de passages dans les Proverbes nous disent que le commencement de la science, de la vraie connaissance, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le respect de qui il est. Ce n'est pas notre grande connaissance de toutes les choses générales du monde. C'est ce que nous faisons, ce n'est pas seulement de connaître ce que Dieu dit, mais c'est ce que nous faisons avec. Beaucoup de ces personnes qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont une connaissance de ce que dit la Bible. Ils savent ce que Dieu dit de lui-même dans sa parole, mais ils choisissent de refuser, de dire non, c'est n'importe quoi, ce sont des fables, ce sont des idioties. Et pour nous, c'est pareil. Quand nous avons cette liste ici que Dieu nous donne, des choses qu'on doit faire, d'ajouter à notre foi toutes ces choses, ce n'est pas juste une question, j'ai une connaissance de cela, mais qu'est-ce que je fais avec cette connaissance? Est-ce que je vais essayer de mettre en pratique, de faire ce que ce passage dit? Est-ce que je vais vouloir, dans la pratique, ajouter à ma foi la vertu, et à la vertu, la science, etc., etc.? Ou est-ce que, je l'ai lu, je ne suis pas contre, mais je ne vais pas nécessairement faire l'effort pour non plus. Mais si on veut réellement grandir en maturité et qu'on veut mettre en pratique ce que ces versets nous disent, la première chose que le verset 8 nous dit, celui en qui ces choses, car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs. Le mot grec ici pour oisif, c'est le mot pour stagner ou coincer. Et on sait tous ce que ça veut dire de stagner quand on voit certains lacs, où ce ne sont même pas vraiment des lacs, parce qu'il n'y a pas de débit d'eau, et donc il y a rien pour faire continuer à couler l'eau, ça stagne, ça devient vert au-dessus, et généralement ça commence à sentir mauvais. Et nous connaissons tous des chrétiens qui sont comme cela, qui sont oisifs, qui sont stagnants. Ils sont coincés, ils n'avancent pas. Il faut constamment les pousser, constamment les motiver, constamment les encourager, juste pour les aider à rester fidèles. On ne parle même pas de grandir et de mûrir en maturité, juste de rester fidèles. Il faut constamment être en train de les motiver, de les pousser. Alors que nous avons d'autres chrétiens qui non seulement n'ont pas besoin d'être constamment motivés, poussés et encouragés, mais ce sont eux qui encouragent les autres. Ce sont eux qui motivent et essayent d'aider les autres à aller vers l'avant et à mettre en pratique leur vie chrétienne. Ils ont un désir de voir leurs frères et leurs sœurs grandir également. Les chrétiens oisifs sont partout et sont de tout âge. Ce n'est pas juste le chrétien jeune dans la foi, et ce n'est pas juste le chrétien qui est sauvé depuis de longues années mais qui s'est lassé avec le temps. Ça peut être tout et n'importe qui. Mais remettons l'importance sur nous. Nous ne parlons pas de progrès passé. Oui, mais j'ai grandi dans le passé. D'accord, c'est bien, mais aujourd'hui, où en êtes-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de continuer à grandir en maturité spirituelle dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ? Sommes-nous aujourd'hui un chrétien qui va vers l'avant, qui grandit, ou sommes-nous un peu stagnants, coincés? Mettons-nous plus d'efforts dans notre vie courante que dans notre vie spirituelle. Je n'ai pas dit qu'il fallait négliger notre vie courante, soit le travail, l'école, nos relations, nos familles, etc. Mais qu'est-ce qui domine dans son importance? L'un des premiers résultats de celui qui veut et désire grandir en maturité, d'être comme Christ, c'est celui de ne pas être oisif, stagnant, inutile. Il n'a pas besoin qu'on le motive, il veut se mettre au travail pour le Seigneur. Nous serons également plus proches de Christ. Ce verset nous dit clairement que nous ne serons point oisifs ni stériles spécifiquement pour la connaissance de Jésus-Christ. De vouloir mieux connaître Christ sera un désir automatique chez nous. Si on doit vous encourager à vouloir mieux connaître Christ, il y a déjà un problème. Il y a déjà qui démontre que vous êtes en train de stagner. Mais celui qui veut grandir en maturité aura automatiquement un désir de mieux connaître la personne de Christ. Et le plus que nous grandissons dans notre vie chrétienne, le plus que nous allons grandir en maturité, le plus que nous allons envie de mieux connaître la personne que nous sommes supposés imiter. C'est normal. D'ailleurs, une des marques de maturité d'un chrétien sera justement ce qu'il pense et ce qu'il sait de la personne de Christ. Bien plus que sa connaissance des diverses doctrines et promesses bibliques, ce qui démontrera bien mieux son niveau spirituel sera sa connaissance de la personne de Christ et donc de sa relation, de sa communion personnelle qu'il a avec Christ. Personne ne nous comprend, ni nous connaît mieux que Christ lui-même. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui il sait, il comprend de quoi nous sommes faits. Il nous a créés dans un but spécifique. Et il comprend et sait de quoi nous avons besoin pour accomplir ce but pour lequel il nous a créés. Le plus que nous grandissons en connaissance de la personne de Christ, le plus que Dieu pourra nous révéler ce que lui attend de nous. Et le plus que Christ pourra nous aider à développer les vertus nécessaires dans notre vie pour accomplir justement la volonté de Dieu, au lieu de nous obstiner à ma volonté et avec ce qui reste, la volonté de Dieu. Mais de changer ces deux choses, la volonté de Dieu d'abord, et avec ce qui reste, également ma volonté qui n'ira pas à l'encontre de sa volonté. De la même manière, le plus que nous ignorons et ne cherchons pas à mieux connaître la personne de Christ, parce qu'on est satisfait de ce qu'on sait déjà, le moins qu'on comprendra exactement ce que Dieu veut faire avec notre vie. Encore moins, ce que Dieu voudrait accomplir à travers notre vie. Mais ça ne s'arrête pas là. Le résultat de vouloir grandir en maturité sera que Dieu nous aidera à avoir un meilleur discernement. Le verset 9 nous dit « Mais en celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. » Donc, il dit « On sera comme des aveugles, impossible de discerner la volonté de Dieu. » En grec, ce mot « ne voit point de loin » c'est le mot que, même en français, on tire l'origine pour la myopie. Hein, c'est pour parler des myopes, des personnes. Mais le mot veut littéralement dire de fermer l'œil. Dans notre contexte, on peut donc parler des chrétiens qui, par leur manque de maturité, non seulement ne démontrent pas les vertus qu'ils devraient dans leur vie, mais en plus ferment l'œil sur les vérités spirituelles qu'on essaie de les enseigner. Ils font comme si tout va bien. Mais non, ce n'est pas mon problème, ça c'est l'autre. Moi, je suis bien. Ils refusent d'admettre la réalité. Ferment l'œil. Ce chrétien, au lieu de ressembler de plus en plus à la personne de Christ, va ressembler de plus en plus au monde. Et bien souvent, en tout cas au début, ne s'en rendra même pas compte. Il est aveuglé à sa propre situation, à sa propre position spirituelle. Il va de plus en plus regarder à l'instant présent et ne plus penser autant à l'éternité. Combien de passages est-ce que Dieu nous dit de nous garder les yeux sur les et de nous amasser des trésors au ciel, de penser au futur, de ne pas craindre pour le moment présent. C'est ce que, en Luc chapitre 12, verset 31 suivant, nous disent « Cherchez plutôt le royaume de Dieu et toutes ces choses vous seront données en plus ou par-dessus. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez, donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point. » Ça, c'était des trucs bien spécifiques pour les disciples. À ce moment-là, on dit pas, on n'a jamais dit ici « Donnez tout ce que vous avez au nom de l'Église », ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas ce qu'il enseigne ici. Et ça, c'est ce qu'on peut voir quand on voit le contexte de Luc. Mais ça, on n'a pas le temps ce matin. Dit, mais car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Il dit, vous n'aurez aucun problème à mettre Dieu en premier si vous aimez Dieu en premier. Si vous aimez vous en premier, alors vos trésors seront de vous plaire à vous avant de plaire à Dieu. Ça, c'est... Il dit, cherchez plutôt le royaume de Dieu. Cherchez ce qui, pour ce trésor qui est incorruptible, que vous, les récompenses que vous aurez plus tard, ce ne sera pas pour le moment présent. Mais pensez à ce qui est plus important. Le chrétien qui ne grandit pas en maturité se focalisera toujours sur le moment présent et non sur l'éternité. Et il oubliera les promesses de Dieu. C'est ce même chrétien qui, quand il fait face à un problème, ne pense seulement à comment se sortir de ce problème, au lieu de vouloir savoir ce que Dieu voudrait l'enseigner à travers ce problème. S'il veut le ramener à lui, s'il veut l'aider à grandir dans un domaine, s'il veut peut-être le servir d'exemple pour aider un autre chrétien. Il ne pense même pas à ces choses, la seule chose auquel il se focalise, « Sors-moi de là !» Il dit, « Mais non, j'ai voulu que tu sois là pour une raison, et cette raison, elle est bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est facile à traverser, mais la raison est bonne. Fais-moi confiance. Ajoute ta foi, la vertu. » Fais-moi confiance. Celui qui désire ressembler à Christ ne pourra pas oublier que sa force et son espérance viendra toujours de Dieu, ce qui en résultat qu'il aura également une base et un fondement solide. Vous avez remarqué la dernière phrase de ce verset 10. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Il donne le résultat, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous serez stable. Vous serez sûr. Pierre continue à donner, toujours dans cet exemple négatif, tout comme il vient de nous dire que si nous n'avons pas cette maturité, nous serons comme des aveugles pour les choses spirituelles. Il nous dit maintenant que si nous serions également oubliés, on en oublie d'abord la purification de nos anciens péchés. Et ensuite, il dit si on... Par contre, on choisit de faire confiance et on choisit de placer notre foi, on sera plus stable et on va revenir à cela. Mais il dit, on en oublie la purification de nos anciens péchés. On oublie que nos péchés passés sont pardonnés. Combien de chrétiens se laissent encore persécuter par des péchés qu'ils ont confessés? Mais que Satan ou même notre propre chair ramène notre esprit et nous rabaisse une fois de plus pour quelque chose que Dieu a dit. Je l'ai éloigné de moi aussi bien de l'Occident que de l'Orient. Je t'ai pardonné. Tu n'es plus coupable pour cela. C'est ta chair. C'est mon adversaire qui veut te culpabiliser. Ma promesse, c'est je suis fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui viennent confesser leurs péchés à moi. Pas aux prêtres, pas aux pasteurs qui viennent me confesser à moi mais leurs péchés. ils en oublient les promesses passées et ils laissent les péchés anciens revenir à faire surface et les ramener vers le bas, qui est tout le contraire de grandir en maturité, de grandir et de croître et d'être plus en plus comme Christ. Et le plus que nous oublions que nous avons nos péchés effacés, pardonnés, le plus que ça va nous empêcher de vivre d'une vie victorieuse. Pierre a bien compris l'importance de cette vérité. Et il nous le précise encore hein, dans ce verset 10. Il dit, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Affermir, qui utilisait, c'est un terme professionnel, impliquant qu'on peut prouver notre transaction en montrant un reçu. C'est ce que ce mot affermir veut dire littéralement. Nous sommes rappelés ici que si nous sommes sauvés, si nous cultivons ces vertus dans notre vie, ben nous ne serons pas oisifs pour la connaissance de Christ. Nous serons automatiquement plus proches de Christ. Nous aurons du discernement parce que nous ne fermerons pas les yeux sur les enseignements spirituels. Nous aurons une base solide donc pour notre foi. Et notre assurance sera ferme. Nous pourrions prouver, comme montrant un reçu, que nous appartenons à Christ. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore d'autres bénédictions qui nous attendent. Et si nous faisons l'effort de rechercher et cultiver ces vertus dans notre vie, nous aurons, comme on l'a déjà dit un peu, je me suis avancé un peu par rapport à cette stabilité que nous avons en Christ. On aura tout ce qu'il faut pour être stable. En faisant tout cela, vous ne broncherez jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui essayeront de vous pousser, de vous déstabiliser, de vous faire tomber. Ça ne veut pas dire qu'on ne devra pas résister, mais que Dieu vous donnera la force nécessaire pour ne pas tomber, justement. C'est bien l'opposé de ce que nous voyons par exemple en Jacques chapitre 1 verset 6 où nous dit que celui qui n'a pas cette foi est ballotté à tout vent. Ou encore celui qui bâtit sa maison sur le sable au lieu d'être bâti sur le roc. Ou comme on voit également en psaume chapitre 1 dans les 3 premiers versets, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc on contredit à l'inverse, qui marche selon le conseil de Dieu. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Mais qui s'arrête dans la parole de Dieu. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui s'assied en compagnie de ceux qui aiment Dieu. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Le chrétien qui cultive ses vertus dans sa vie aura ce qu'il faut pour être stable, pour être ferme. Et cela, malgré les tempêtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'en aura pas. Il dit que malgré les difficultés, malgré les choses qui voudront apporter le doute, il sera stable, il sera ferme. Il pourra continuer à regarder vers celui en qui il sait vient sa force. Pas en lui, mais en Dieu. Pour reprendre les mots de David, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il sera fort. Pas juste bien fleuri, portera son fruit. Il sera extrêmement fort, il aura tout ce qu'il faut pour grandir et mûrir. Et encore un petit détail avant de poursuivre ce mot « joindre » que nous trouvons dans cette liste de vertus qui nous est donnée dans le verset 5, qu'il faut joindre notre foi à la vertu, etc. C'est le même mot que nous retrouvons dans le verset 11, quand il nous dit « accorder ». On regarde ce mot dans le grec, c'est exactement deux fois exactement le même mot. C'est de la même manière que le ciel nous est pleinement accordé, elle nous est donnée sans réserve, elle est ajoutée, elle est jointe, si vous voulez, à notre salut. De la même manière, joindre à notre foi la vertu. On doit rechercher à cultiver ces vertus sans réserve, pleinement, que ce soit pleinement accordé, pleinement rajouté. Que l'un automatiquement affecte l'autre. Quand j'accepte Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel, il me donne son salut, il me donne le Saint-Esprit, mais à cela, il a joint la vie éternelle, le ciel qui m'est offert. Je n'ai pas besoin de faire quelque chose en plus pour pouvoir acquérir l'accès. Ce n'est pas selon les œuvres que je fais, c'est selon le salut que j'ai accepté par Christ qui m'ouvre les portes. Elle est pleinement accordée, elle est jointe au salut que Dieu m'a accordé. Ce n'est pas que nous devons simplement ajouter telle ou telle chose à notre foi, mais il nous les faut également Il nous dit en abondance, pleinement. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance. Pour moi, ça me dit que Dieu n'est pas satisfait pour le chrétien qui fait le strict minimum. Dieu est satisfait avec celui qui désire le tout, qui désire à mettre Dieu. Combien de fois est-ce qu'on l'a dit et répété ici? Le premier, le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta pensée. Pas du strict minimum. C'est tout. De la même manière que Dieu nous a tout donné. Dieu ne nous a pas donné le minimum. Il ne nous a pas donné un salut minimalistique. Il nous a tout donné en Christ. Il veut que nous lui donnions notre tout en retour. Il dit, ajoutez à votre foi la vertu, etc. Mais pas juste un peu, mais que ça soit quelque chose de continu. On continue chaque jour à rajouter, à joindre chaque chose. De pouvoir grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui fait toute la différence dans notre vie. Alors je vous encourage à vous examiner un peu ce matin. Nous avons parlé des bénédictions qu'il y a de manifester ces vertus dans notre vie. Est-ce que vous retrouvez ces bénédictions dans votre vie? Est-ce que vous retrouvez cette stabilité, cette fermeté dans votre vie? Est-ce que vous retrouvez ce désir de vouloir connaître Christ, d'avoir cette communion personnelle avec lui qui soit pas juste proche, mais de plus en plus proche, d'avoir plus en plus de connaissances? Est-ce qu'il y a qui que ce soit ici qui puisse dire « Je sais déjà tout ce qu'il y a à savoir de la personne de Christ » Est-ce que la connaissance que vous avez de lui vous suffit pour ne pas vouloir continuer à approfondir votre connaissance? Faites-vous tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est le premier pas. Ça ne vous laissera point oisif. Êtes-vous quelqu'un qui a besoin d'être motivé pour faire la volonté de Dieu? Ou faites-vous partie de ceux qu'on a besoin de constamment en train de motiver et pousser? Êtes-vous proche de Christ? Pensez à votre relation personnelle avec Christ que vous aviez en juillet 2024, l'année dernière. A-t-elle grandi depuis l'année dernière et à aujourd'hui? Mais comment est-ce que je peux savoir? Si déjà vous posez la question, comment est-ce que je peux le savoir? Je peux vous dire non, elle n'a pas grandi. On ne peut pas grandir en maturité, en connaissance pour la personne de Christ sans le savoir. Est-elle pareille? Ou est-elle moindre? On a parlé du fait qu'on aura du discernement. Avez-vous les yeux ouverts aux enseignements que Dieu vous apporte? Ou est-ce que vous fermez les yeux sur les choses spirituelles que vous n'aimez pas trop? Surtout quand vous faites face à un problème ou à une tentation et on préfère essayer de trouver des excuses que de garder les yeux ouverts aux enseignements que nous savons être justes de la parole de Dieu et de lui faire confiance pour nous aider à ne pas tomber dans ses péchés. Est-ce juste êtes-vous dans une situation que vous regardez comme étant un problème ou est-ce une opportunité? Un problème, c'est quelque chose qu'on ne désire pas. Une opportunité, c'est qu'il y a une difficulté que Dieu veut m'apprendre quelque chose, veut m'aider avec. C'est une opportunité pour moi de montrer ma foi en Dieu. C'est une opportunité pour moi de montrer que je lui remets toute chose, que je lui fais confiance. Quelle est la base de votre assurance? Votre assurance se repose-t-elle vraiment sur la personne de Christ ou est-ce qu'elle se repose sur vos expériences? Êtes-vous vraiment stable? Quand vous regardez à votre vie, je pourrais demander, est-ce que vous vous considérez comme étant un chrétien stable et ferme? On devrait peut-être demander à ceux qui vous connaissent le mieux, de plus proche. Est-ce qu'ils vous regardent comme étant un chrétien ferme et stable, envers qui eux-mêmes vont demander conseil? Toi, je t'ai vu passer par des épreuves, mais j'ai vu ta foi rester ferme. Dis-moi, comment est-ce que je peux être prêt? Comment est-ce que je peux grandir? Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour t'aider dans ces situations-là? Ou est-ce que vous êtes celui qui... c'est pas la peine de demander à celui-là, parce que dès qu'il y a le moindre problème, il est ballotté à tout vent, à droite et à gauche, comme un navire dans la tempête. Recherchez-vous à ce que ces vertus soient en vous et ils soient en abondance. Si elles n'y sont pas encore, ne soyez pas découragés. Si vous examinez vous-même, vous dites « J'en suis loin, je ne suis pas parfait. » Personne ne l'est ici. Tout le monde en est un peu loin. Qui peut dire ici, je suis presque comme Christ, j'en suis pas loin? Non, on en est tous loin. Mais qu'est-ce que Paul lui dit? Tendez vers la perfection. Ne vous contentez pas de juste miser vers la cible et fermer les yeux. Ayez la volonté d'être plus comme Christ. Ayez la volonté de mettre l'effort nécessaire pour être obéissant. N'oublions jamais que nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à notre foi par notre propre force. Il nous faut l'aide du Saint-Esprit, ce qui implique qu'il nous faut imprégner nos efforts dans la prière et une entière soumission et humilité. Prier en rendant gloire à Dieu pour que ce que lui fait, prier avec foi et conviction. Cette épître termine en deux, on prend les deux épîtres ensemble, en 2 Pierre chapitre 3, versets 17 et 18, on voit, ce sont les deux derniers versets de ces épîtres. Il nous dit, vous donc bien-aimés, qui êtes avertis, vous avez reçu des enseignements, mettez-vous sur vos gardes, ne les prenez pas à la légère, remplissez votre responsabilité, de peur qu'entrant par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous êtes ferme aujourd'hui, mais ce n'est pas parce que vous êtes ferme aujourd'hui que vous le serez demain si vous n'y faites pas l'effort nécessaire. Mais croissez, grandir, maturité, croissez dans la grâce, et encore une fois, il termine, et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Les seules fois où je vois Dieu mettre une importance sur la connaissance, proprement dite, c'est toujours lié à la personne de Christ. Les autres connaissances, elles ont leur utilité, mais elles ne sont pas plus importantes que ce que nous faisons avec la connaissance de la personne de Christ. Je prie que même pendant ces vacances d'été, qu'aucun de nous ne prenions des vacances de notre devoir de mettre l'effort de joindre notre foi à la vertu et à la connaissance, de vouloir connaître ce Sauveur si merveilleux, ce nom incomparable, ce Sauveur qui ne désire autre chose que d'avoir une relation proche et personnelle avec chacun d'entre nous. Prions, s'il vous plaît.